Merci. Je vais rester sur ce sujet de l'information par rapport à la Méditerranée, mais les orateurs précédents sont partis d'expériences de télévision. Moi, je voudrais m'appuyer plutôt sur l'expérience des agences de presse, et en particulier des deux agences ou des deux familles d'agences qui ont existé et qui existent encore en Italie d'un côté et en France, et en voyant un peu ce que leur dialogue, parfois, leur action parfois commune, a apporté pour l'ensemble de la Méditerranée. Les agences de presse, comme chacun sait, sont les journaux des journaux, c'est-à-dire ce sont les matrices de l'information. Elles ont longtemps eu trois missions. Là, une mission de transmission, elles étaient les premières à utiliser le télégraphe électrique, après les pigeons d'ailleurs, voyageurs, au milieu du XIXe siècle. Cette mission est tombée puisque nous avons tous dans notre poche un petit appareil dit téléphone ou smartphone qui nous permet de communiquer avec qui nous voulons, où nous voulons et de collecter l'information que nous souhaitons. Donc les agences ont encore cette mission, mais elle n'est plus originale ni exclusive. Les agences ont eu une seconde mission qui était d'être présentes partout dans le monde. J'évoque parfois la notion d'ubiquité. Cette mission-là aussi, elle reste existante, importante, mais il est très facile de trouver des interlocuteurs à partir d'ici même, à l'instant même, dans les pays les plus lointains. Donc, deuxième exclusivité qu'elles ont perdue. En revanche, je crois qu'elles ont gardé une exclusivité tout à fait significative, ou en tout cas une position dominante, sinon une exclusivité, à laquelle la présidente Tarantola a fait tout à l'heure référence indirectement en parlant d'informations exactes et vérifiées. Lorsqu'une information est donnée par une agence de presse, elle est réputée, autant que faire se peut, la perfection absolue n'est pas de ce monde, mais elle est réputée exacte, elle fait foi, elle est, comme on dit en anglais, reliable. On peut rendre compte et on peut s'appuyer sur elle. Alors, compte tenu de ce qui a été dit hier, et d'ailleurs aussi ce matin, je vais commencer ces quelques remarques. D'abord par un petit point d'histoire. Là, le dialogue des agences italiennes et françaises n'est pas nouveau. Il commence en 1853, quand un journaliste d'origine vénitienne, M. Stefani, crée l'agence qui va porter son nom et qui durera jusqu'en 1945. Je parle de ce point avec la plus grande précaution parce que nous avons dans la salle l'historien de l'agence Stefani, M. Sergio Lepri, que beaucoup ici connaissent puisqu'il est un des grands journalistes italiens, mais aussi il a été le directeur général de l'agence ANSA pendant, il est si jeune que je n'ose pas le dire, mais une trentaine d'années au moins. Je n'invente rien, je m'appuie simplement sur ce qu'a écrit Sergio Lepri de Stefani. Alors c'est assez intéressant l'histoire de Stefani en deux mots, car dès sa naissance, elle établit un lien avec l'agence Havas, qui était l'ancêtre de l'agence France Presse, et qui avait été créée elle, un tout petit peu plus tôt en 1835, exactement sur les trois missions que je viens d'évoquer. Mais sans entrer dans les détails, entre 1853 et 1945, la relation entre l'agence Havas et l'agence Stefani, ou dans le sens inverse, comportera énormément de hauts et de bas. Parfois, l'union est tellement forte qu'il y a des actionnaires communs. Il y a même une brève période, pendant une douzaine d'années, durant laquelle l'agence Havas est un actionnaire significatif, à près de 50% de l'agence Stefani. Il y a énormément d'échanges de liens qui ne se concrétisent jamais jusqu'à former une agence commune, ce qui aurait été sympathique, ça aurait été une agence méditerranéenne ou latine avant aujourd'hui. Et pour une raison, et ceci n'a rien à voir avec le service public, pour une raison qui tient à ce que les agences, pendant longtemps et encore un peu aujourd'hui, ne sont jamais séparables des intérêts nationaux. J'oserais presque dire des intérêts de souveraineté. Les télévisions de service public reprendront ce rôle, mais quels que soient les statuts des agences de presse, qu'elles soient entièrement privées comme l'était Havas, sans lien avec la puissance publique ou avec des liens commerciaux, comme ça sera le cas d'Havas un peu plus tard. Et les États, les agences ne séparent jamais leur action des intérêts fondamentaux des pays où elles ont leur siège. Et il faut bien reconnaître que dans le cas de l'agence Stéphanie, du dialogue entre Stéphanie et Havas, il y a des tierces personnes, une s'appellera Reuter, quand je dis personne, c'est au sens personne morale, et l'autre s'appellera la Prusse, puis l'Empire d'Allemagne, qui interfèrent et qui empêcheront d'aller plus loin dans une action commune. Néanmoins, j'y reviendrai dans une minute, on s'aperçoit que tout au long du XIXe siècle et dans la première moitié du XXe siècle, il y a dans les deux agences, par la multiplicité de leurs échanges, par leur communauté, je dirais, de réflexes professionnels, on peut observer la construction progressive d'un journalisme professionnel. Les agences ne sont pas le seul endroit où se construit le journalisme professionnel entre le milieu du XIXe siècle et le milieu du XXe, mais c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un des endroits d'excellence parce qu'elles ne sont pas soumises à la publicité, parce qu'elles cherchent à être aussi indépendantes que possible. Bref, nous n'avons pas le temps ici, mais on pourrait tout à fait montrer comment Stéphanie en Italie et Havas d'une certaine mesure en France, malgré beaucoup de faiblesses, malgré beaucoup d'erreurs, ont été des points de référence pour la construction d'un journalisme. Alors ceci va se développer encore plus après 1945. Du côté français, l'interlocuteur s'appelle l'agence France Presse. Du côté italien, l'interlocuteur s'appelle l'agence ANSA. Je dois dire, pour y avoir participé plus d'une décennie activement, que les relations entre l'agence ANSA et l'agence France Presse ont toujours été idylliques. Il n'y a jamais eu de conflit, il y a toujours eu une coopération très étroite. Il y a même eu des moments d'union, puisque nous avons même tenté de créer une agence photographique européenne commune, et c'était de la photo de presse, au sens où la présidente de la RAI parlait tout à l'heure des images, très importantes aujourd'hui, pour des raisons diverses sur lesquelles je ne vais pas m'arrêter, qui sont plus commerciales et patrimoniales que politiques. La politique n'avait rien à faire. Cette union dans une coopérative n'a pas duré autant qu'elle pourrait, une petite vingtaine d'années. En tout cas, l'agence coopérative européenne, qui s'appelle European Press Photo Agency, EPA, continue à exister, mais a perdu beaucoup de sa substance, etc. Ce qui est en revanche important, c'est que ce dialogue, ce cheminement parallèle que j'évoquais dans la construction d'un journalisme conduisant à cette information indépendante que vous évoquiez tout à l'heure, a continué. On en trouve un symbole dans un des grands débats des années 70, qui est le débat de l'UNESCO sur le nouvel ordre mondial de l'information et de la communication. Un certain nombre d'entre vous connaissent ce moment et ce débat qui a démarré sur des idéaux et des objectifs éminemment respectables et qui consistaient à trouver les moyens de mieux équilibrer l'information venant du Nord, traditionnellement, enfin disons-le, des pays développés, et l'information venant du Sud, les pays du Sud que l'on n'appelait pas encore émergents, l'on appelait parfois encore en développement, voire sous-développés, exprimaient une revendication qui consistait à dire « nous aimerions que notre actualité soit produite par nous, par nos médias, par nos journalistes, et non pas seulement à travers le prisme des grands médias du Nord et de l'Ouest, il faut bien le dire. » Alors, ce débat a tourné court, parce qu'on peut le dire sans développer ce point. Il est devenu un enjeu de la guerre froide finissante entre l'Est et l'Ouest. L'Union soviétique s'est insérée dans cette affaire, et très vite, c'est devenu un débat sur la liberté de l'information et sur le journalisme indépendant. L'Union soviétique cherchant à entraîner, avec un certain succès, les pays du Sud dans l'idée que le journalisme indépendant ne pouvait pas exister s'il n'était pas garanti par l'État. Alors, je dis tout de suite, l'affaire s'est conclue très simplement, d'abord parce que l'Union soviétique finissait, la conférence d'Helsinki en 77 a achevé de tuer ses idées dirigistes, mais d'un point de vue relativement presque paradoxal, ce débat a servi à conforter les valeurs du journalisme auquel j'ai fait référence à plusieurs reprises, dont l'on pourrait définir de la façon suivante. C'est un effort constant, ça ne se fait pas immédiatement, pour essayer d'identifier et de relater de façon indépendante, c'est-à-dire ne dépendant ni d'intérêts politiques et partisans, a fortiori, ni d'intérêts économiques, la meilleure vision ou la meilleure perception d'une réalité des faits et des événements. On a là à peu près la définition du journalisme professionnel. Alors, c'est intéressant parce que ce journalisme, qui est après tout, le journaliste est une profession récente, il est différent, il a une position différente de celle de l'écrivain, il a une position différente de celle de l'historien, celui-ci fut-il historien du temps présent, mais il a une fonction, je dirais, qui doit être à la fois très ambitieuse et très modeste, c'est-à-dire essayer d'appliquer un esprit critique et une vision aussi indépendante que possible à ce qui nous entoure, et essayer, ça c'est l'ambition presque emphatique, je dirais, mais la nécessité de modestie, c'est de savoir qu'on n'atteint jamais la vérité, on l'approche, elle est provisoire, il faudra aller plus loin, et tout le jeu va se transmettre dans le pluralisme, la compétition. En tant que journaliste, je n'aurai jamais la vérité, mais je peux contribuer à approcher cette vérité avec d'autres confrères qui n'auront pas forcément les mêmes positions que moi, et le lecteur fera son choix. Alors là, les agences ont joué un rôle tout à fait important, et on voit bien l'enjeu. L'enjeu, c'est celui qui a été posé à l'époque contemporaine par Jürgen Habermas quand il parle d'espace public, c'est-à-dire le lieu, la réalisation idéale, en quelque sorte, de l'idée des Lumières, celle qui avait été exprimée par Emmanuel Kant, d'ailleurs, qui disait que la vérité ressort d'un débat et d'un dialogue avec publicité, disait-il. Publicité non pas au sens d'aujourd'hui, mais publicité au sens du XVIIIe siècle. Et là, si on peut dire que, si on ose dire que les agences ont servi de référence en donnant, en quelque sorte, une sorte de certification aux nouvelles, c'est bien sur ce plan-là, c'est-à-dire en essayant de donner une information qui soit acceptable par tous les médias, donc des interlocuteurs professionnels, quelle que soit leur sensibilité philosophique, religieuse, politique, quelle que soit leur langue ou leur religion ou leur civilisation, et aussi quelle que soit la nationalité. Vous évoquiez, madame, tout à l'heure, la difficulté de coopérer à travers des langues différentes. Le propre des agences, que ce soit l'agence ANSA ou l'AFP, pour celles sur lesquelles j'appuie ces quelques remarques, ont l'habitude de travailler dans des langues très diverses et elles essaient d'être honnêtes, autant encore une fois que faire se peut, des deux côtés. Alors, ceci a eu une application et qui nous amène à l'actualité presque directe ou presque immédiate dans le printemps arabe. Le printemps arabe, on y a fait référence hier, a eu divers aspects. Il y avait une volonté d'émancipation, de changement, de renouvellement par rapport à des régimes politiques installés, peut-être trop, par rapport à une situation économique qui avait évolué. Il y a un autre aspect qui n'a pas souvent été souligné dans les médias, d'ailleurs, c'est l'explosion de liberté de l'information. Que ce soit à Tunis, que ce soit au Caire, que ce soit dans tous les pays, que ce soit en Syrie même d'une certaine façon, même si la situation est un peu différente, il y a eu, au début, les choses ont assez vite changé, mais il y a eu au début une véritable explosion de liberté de l'information, dans laquelle les médias occidentaux et les agences d'information ont joué un rôle de référence, en quelque sorte, c'est-à-dire que dans la mesure où elles distribuaient des informations construites selon nos canons européens ou occidentaux, disons, elles ont donné envie à toute une série de journalistes qui avaient eu le temps de se former, de faire la même chose et de s'exprimer à travers des médias qui, jusqu'alors, ne leur avaient pas laissé une totale liberté, ou plutôt les avaient maintenus dans un cadre assez étroit. Je voudrais au passage souligner, par exemple, que le centre de formation des journalistes, que j'ai le plaisir et l'honneur de présider à Paris, a formé entre les années 88 et un peu plus tard, 94 disons, et 2010, près de 200 jeunes journalistes égyptiens. Tous ne sont pas restés dans la profession, mais il y en a encore une centaine qui ont eu envie de faire du journalisme au sens que nous l'entendons ici, à Rome ou à Paris, et qui n'en ont pas toujours eu la possibilité. Et subitement, au moment de ce printemps, 2011-2012, tout d'un coup, les choses ont explosé. Alors, ça, c'est quelque chose qui est tout à fait important, parce que tout d'un coup, non pas à travers les institutions, non pas à travers les lois, non pas à travers des accords politiques, si intéressants soient-ils, mais à travers la réalité, on a vu des passerelles s'établir entre le nord et le sud de la Méditerranée pour tenter de faire émerger des espaces publics qui, en Tunisie, au Maroc, aussi en Algérie, d'une certaine façon, en Égypte, au Liban, comme ça avait été le cas déjà précédemment, ont commencé à peser et à faire évoluer, je ne dirais pas les régimes politiques, mais la vie politique, l'expression des citoyens dans ce nouvel équilibre. Alors, on sait, deux ans après, que les choses ont relativement tourné court, parce que, et elles ont tourné court pour un point qui nous intéresse, me semble-t-il, directement ici, parce que, simultanément, la révolution technique et l'apparition de nouveaux moyens de communication a permis l'arrivée de beaucoup d'autres initiatives. Alors, qui ne passaient plus parmi les médias traditionnels, ni par les canons habituels du journalisme. Ces initiatives, certaines étaient très positives. Ça a été l'utilisation de tous les tweets, blogs et autres. Je ne vais pas faire la litanie de toutes ces activités qui permettent à chacun non seulement de collecter l'information, mais de s'exprimer, de la disséminer, mais aussi, je dirais, qui ont, donc à côté de l'ouverture de liberté que toute cette révolution technique provoquait, il y a eu un autre aspect sur lequel on s'arrête moins pour l'instant, que seuls les professionnels connaissent, hélas douloureusement, c'est de créer une très profonde crise des médias. Sans vouloir être pessimiste, aujourd'hui, la plupart des journaux, des radios et des télévisions du monde, celles qui sont organisées, sont devant un risque de faillite. Non seulement parce qu'elles ont perdu l'audience classique qu'elles avaient, parce que les canaux se sont multipliés et que les concurrents se sont multipliés, mais parce que s'est développée à travers ces canaux une information gratuite, et parce que les ressources, celles de la publicité, ont quitté les médias organisés, là où elles finançaient le journalisme, parce que le journalisme professionnel que j'évoquais, il coûte un certain prix. Il faut rémunérer les professionnels. Et cette publicité est partie vers les réseaux, vers Google, vers Amazon, dont le métier n'est pas de produire de l'information, mais de faire circuler des messages. Et quand je dis faire circuler des messages, ça veut dire n'importe quel message. Et donc, quand vous regardez le monde d'aujourd'hui, à la fin de 2013, vous n'avez plus le monde international de l'information. Ça n'est plus du tout un jardin à la française, ordonné, avec des allées, avec des arbres taillés. C'est une immense jungle dans laquelle le bruit, au sens physique du terme, l'emporte sur l'information organisée, et dans lequel la rumeur a exactement la même place que l'information vérifiée que vous évoquiez, cher confrère, tout à l'heure. Plus grave peut-être, par rapport à ma remarque de tout à l'heure sur l'information indépendante, l'information intéressée, c'est-à-dire téléguidée, soit par un pouvoir économique à travers la publicité, cette fois-ci au sens présent du terme, publicité commerciale, soit à travers ce qu'on appelle joliment la communication politique, qui n'est que le nouveau mot de la propagande d'ancienne mémoire, une grande part des messages qui circulent sont en fait, relèvent soit de la rumeur, soit de cette information, dirigée par des intérêts divers. Ça ne, je ne voudrais pas qu'il y ait de malentendus. Je ne fais pas du tout référence à un système totalitaire comme on en a connu un peu partout dans le monde. Là, je fais référence à des gens qui ont la puissance, ou à des organisations qui ont la puissance de passer une information qui correspond à leurs intérêts, parfaitement respectables, parfaitement légitimes. Et il est logique qu'un gouvernement défende sa politique. Il est logique qu'une marque d'automobile ou de yaourt défende la qualité de ses produits. Mais il est important aussi qu'il y ait en face des gens qui expriment un esprit critique qui sera différent. Alors, la crise de l'information, elle est celle-là aujourd'hui. Et il y a une crise institutionnelle, la recherche de modèles économiques, etc., qui intéresse les professionnels, ça n'est pas le propos que je veux développer aussi ici, mais il y a aussi une crise de l'information indépendante, puisque les gens, les professionnels qui pourraient l'assumer, existent de moins en moins. Quand vous regardez les statistiques, vous regardez les effectifs des rédactions dans tous les pays, et vous vous apercevez que ces effectifs sont en train de fondre. Quand vous regardez les agences de presse, toutes sont en difficulté. L'agence Reuters, qui était l'agence la plus puissante, la plus riche grâce à l'information financière, a dû être rachetée par un groupe financier, enfin d'information financière canadien. Quelques années plus tard, sa situation n'est pas meilleure. Personne ne peut prévoir ce que sera l'avenir de l'agence Reuters. L'agence Associated de presse, qui est l'agence coopérative américaine, appuyée sur l'énorme réseau de tous les médias des États-Unis, est elle aussi en difficulté et se demande comment elle pourra maintenir, par exemple, son réseau mondial de couverture avec des bureaux dans tous les pays du monde, des bureaux de reportage, j'entends. L'agence France Presse, j'en parlerai avec prudence, puis je n'y suis plus depuis quelques années, mais a à la fois l'avantage et l'inconvénient d'avoir des relations commerciales proches avec l'État français, ce qui lui donne une garantie, je dirais, de ressources commerciales. C'est l'avantage. L'inconvénient aussi, c'est qu'on sait bien qu'à partir d'un certain moment, quand les relations sont trop étroites entre un média qui se veut indépendant et une autorité politique, on entre dans une zone de difficulté et de danger. L'agence ANSA, là aussi j'en parle avec précaution, mais pour autant que je puisse le connaître, est dans une situation relativement comparable pour ce qui concerne son marché. Alors, nous en sommes là aujourd'hui. Est-ce que cela doit me conduire à une conclusion pessimiste. Mais je ne crois pas du tout. Je crois que toute crise a un côté positif. Toute crise constitue une remise à plat. Vous connaissez le sens grec, l'étymologie grecque, crisis, c'est l'art de distinguer l'important de l'accessoire et l'art de choisir. Alors je crois que nous sommes là devant un moment tout à fait difficile à vivre dans l'immédiat, mais tout à fait important, dont on voit d'ailleurs des prémices de reconstruction. On n'a plus le temps, mais il y a une multiplicité, une floraison d'initiatives en Europe, aux États-Unis, au sud de la Méditerranée, pour recréer des centres d'information indépendants. Et là, ça sera mon dernier mot, je dis que compte tenu du passé, de la tradition, de l'histoire, compte tenu du partage des valeurs, il serait tout à fait possible, et j'oserais dire tout à fait souhaitable, que les agences européennes, et en particulier l'agence ANSA et l'agence France Presse, qui au-delà de toutes les communautés européennes sont toutes les deux des agences latines et qui après tout ont quasiment un siècle et demi d'entente, de dialogue et de coopération, puissent prendre des initiatives. Je suis persuadé que dans la troisième mission des agences, cette mission sur la qualité de l'information, sur la défense, la reconstruction d'une information indépendante, tout cela peut venir des agences de presse, car c'est à partir d'elles que l'ensemble des médias pourra jouer son rôle. Et après tout, comme M. Scalfari l'évoquait hier après-midi au Palais Farnèse, il y a quand même une référence de journalisme latin que l'on trouve en Italie, que l'on trouve, avec lui-même d'ailleurs, mais beaucoup d'autres, que l'on trouve récemment en Espagne avec Juan Luis Cebrián, qu'il a cité, que l'on trouve en France, et je ne citerai qu'un nom pour ne pas faire de jaloux, prenons le nom de quelqu'un qui n'est plus parmi nous, Hubert Veuvéry. Donc je pense qu'il y a un discours commun à tenir sur la Méditerranée, enfin, dans le cadre de la Méditerranée, à tenir entre la France et l'Italie sur le journalisme indépendant. Merci.
Merci.